Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Au téléphone sonne ce soir, 2006, 2012, 2024, etc. Que nous réserve le 21e siècle ? Une émission dirigée par Denis Astagneau.
Bonsoir. Cette fois, ça y est, nous y sommes depuis 5 ans ou 4 ans, suivant les calculs. Le 21e siècle est sur les rails. Dire que nous avons ressenti un soubresaut serait exagéré, mais on a l'impression d'une véritable accélération technologique. La technologie de tous les jours, c'est des ordinateurs, d'Internet, des puces électroniques, de la biométrie, mais aussi de Galiléo, des greffes de visage, etc. Et à côté de cela, de nouvelles angoisses sont nées, une nouvelle épidémie incurable comme la grippe aviaire, le terrorisme en Europe, l'énergie chère, le réchauffement climatique, etc. Nous allons voir ce soir si ce qu'on peut prévoir sur les échanges, la santé, la technologie, les transports et l'environnement peut atténuer ces angoisses. Peut-être aussi des pistes sur ce qui nous étonnera bientôt parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Et sur le plan matériel ou intellectuel, car on peut se demander si la notion même de progrès n'a pas complètement changé de nature depuis le XXe siècle. C'est donc ce que nous allons voir ce soir avec nos invités. Éric de Ritmaten, auteur du livre XXIe siècle, les innovations qui vont changer notre vie aux éditions de l'Archipel. Éric Seuillet, consultant et fondateur d'Émergence, un réseau de conseils en prospective et innovation, et co-auteur de Fabriquer le futur aux éditions Village Mondial. Axel Kahn, qu'on ne présente plus, généticien, directeur de l'Institut Cochin, et Bernard Werber, qu'on ne présente plus non plus, qui est un écrivain et qui est un grand amateur de science-fiction et de futurologie. Et donc, moi, je voudrais commencer par vous, Axel Kahn. Dans la préface du livre d'Éric de Ritmaten, vous dites que les technologies évoluent très vite, mais que la mentalité de l'homme ne change pas.
Oui, bon, ça c'est relativement une banalité. Mais même pour les technologies qui évoluent très vite, il faut bien voir qu'il y a deux types d'évolution et il ne faut pas les mélanger. Il y a la technologie qui, pratiquement, a son chemin tracé. Lorsque une technologie existe, on sait pratiquement, lorsqu'il y a un marché, un désir, une appétence pour une technique, on sait à peu près ce à quoi elle parviendra. Il y a des doutes économiques. En revanche, il y a d'autres domaines où il y a également un désir, mais pas encore de technologie. Et ça, il y a une très grande incertitude. Et souvent, les gens ne comprennent pas bien la différence qu'il y a entre le progrès prévisible, pratiquement prévisible, qui ne va dépendre que de facteurs économiques, et puis une très grande incertitude, parce que on aimerait bien vivre 300 ans, on aimerait bien guérir à tout coup du cancer, on aimerait bien qu'il n'y ait plus de maladies infectieuses, manque de peau, la science pour atteindre tous ces objectifs, elle est désirable, mais elle n'existe pas encore. Donc quand cela surviendra-t-il? Si jamais cela survient, eh ben on essaiera de répondre à cette question.
Voilà, on espère qu'on sera ensemble, par exemple, pour parler du 22e ou du 23e siècle, après tout, pourquoi pas.
Il faudrait que je travaille bien.
Nous allons prendre une première question. Christian nous appelle de Vendée. Bonsoir.
Bonsoir. J'ai trois mauvaises nouvelles et trois meilleures.
Si vous allons-y.
Allons-y. Ce que je vois comme problématique pour le 21e siècle, d'une part, les difficultés d'approvisionnement énergétique en même temps que le réchauffement climatique, évidemment. Ensuite, ce qui est moins su, peut-être, c'est la disparition programmée à une vitesse grand V de très nombreuses espèces animales et végétales. On considère un tiers des batraciens, un quart des mammifères, un dixième des oiseaux et un cinquième des plantes. Et en matière de santé et environnement, une très probable progression du cancer, puisqu'il est depuis 20 ans d'à peu près 1% d'accroissement par an chez l'adulte et jusqu'à 4% pour les cancers cérébraux chez l'enfant. Et en particulier également les perturbations hormonales ou endocriniennes, comme vous voudrez, lesquelles sont souvent reliées, l'un et l'autre, aux 100 000 produits toxiques qui ont été répandus dans la nature sans avoir été étudiés sérieusement du point de vue écotoxicologique.
D'accord. Et alors, quelles sont les trois bonnes nouvelles quand même,
le projet RICHE d'évaluation et d'enregistrement des produits toxiques qui conduira certainement à éliminer les produits mutagènes, reprotoxiques et cancérigènes. L'Union européenne qui contraint la France à adopter 80% des lois et règlements en matière de santé et d'environnement actuellement. C'est pas rien. Et puis un rapport que je souhaite saluer ici, c'est celui de l'INRA et du CEMAGREF sur pesticides, agriculture et environnement, qui est pour ma part ce que je prends comme le prélude à une prise de conscience généralisée des conséquences de notre insouciance en matière d'usage de produits chimiques, qui nous conduira certainement à voir d'une part l'agriculture, mais peut-être aussi d'autres activités beaucoup évoluer rapidement pour ne plus libérer une quantité de saloperies dans la nature comme on fait depuis 50 ans.
D'accord, donc il y a quand même une part d'optimisme malgré tout dans votre remarque. Merci Christian. Bernard Werber, justement sur la disparition des espèces, vous êtes bien placé avec les fourmis.
C'est vrai que c'est un vrai problème, c'est-à-dire que je crois que l'espèce humaine est en train de détruire son biotope. Mais je crois que notre principal problème, c'est la notion de croissance. On est perpétuellement dans le cul de la croissance. On est à la croissance démographique, on est dans la croissance technologique, économique. Et peut-être que l'idée vraiment nouvelle, révolutionnaire, ça serait pause. On s'arrête et on réfléchit. Et on regarde ce qui se passe, on regarde ce que ça a créé comme dégâts, ce que ça ouvre comme nouvelle perspective, et on réfléchit, on discute. Il faut arrêter, on peut pas descendre une voiture en marche. Il faut d'abord arrêter la voiture, regarder le paysage, et ça pour l'instant ce n'est pas fait, et ce luxe on ne se l'accorde pas. Alors on est en train d'accélérer pour ne pas être obligé de constater ce qui se passe. Et là, du coup, il y a de la peur, du coup, il y a des espoirs, il y a tout un système qui fonctionne, on dirait un peu de manière emballée. Mais je crois que si on veut penser à un futur meilleur, il faut penser non plus à croissance, mais harmonie. Et harmonie, ça veut dire harmonie entre êtres humains, mais aussi harmonie avec les autres espèces animales, harmonie avec la planète, harmonie avec tout le système. Notre problème, ce besoin de croissance, de conquête de territoire, d'avoir toujours plus de voitures, toujours plus de consommation, toujours plus de pollution, toujours plus de territoire, même de marché, nous enferme dans des prisons. Nous sommes en train de payer pour ces prisons. La notion d'harmonie et d'arrêt devrait être des notions qui devraient déjà respecter les autres formes de vie.
Alors, est-ce que vous croyez que les Chinois, les Indiens sont dans cette philosophie d'arrêt, par exemple ?
Je crois que on va être obligé de s'arrêter. Quand on verra qu'il n'y a plus assez d'air, qu'il n'y a plus assez d'eau, qu'on est tous en train de se foutre sur la gueule, il y aura bien un moment où on va se dire « Ok, faudrait peut-être qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse ». On ne peut pas, évidemment, s'il y a certains pays qui s'arrêtent et d'autres qui continuent la croissance, ceux qui s'arrêtent vont se faire bouffer. Donc il faudrait viser malgré tout à une sorte d'arrêt mondial, global, tous ensemble, on se dit « On arrête ». Et on regarde ce qui se passe. Parce que c'est vrai que, par exemple, au niveau de la croissance démographique, on a vu qu'il y a certains pays qui ont des politiques de natalité et d'autres qui, par contre, font plein d'enfants en prévision d'une prochaine guerre. Donc, évidemment, ceux qui fonctionnent comme ça sont avantagés par rapport à ceux qui ont une politique de natalité. C'est pour ça que peut-être qu'il faudrait... Je sais que tout le monde a peur de la mondialisation, mais en tout cas, il faudrait imaginer une mondialisation saine qui oblige tout le système de manière planétaire à se calmer. Je ne vois pas d'autres termes, c'est se calmer et ne pas laisser des petits états despotiques tricher alors que les autres se calment. Ça m'a l'air la seule solution. La mondialisation n'est pas qu'une source de libéralisme ou de destruction des droits. Ça peut être aussi une manière de calmer le jeu et d'offrir une planète viable pour nos enfants.
Alors, Bernard Werber parle de pause et même de contraception par rapport aux pays qui font beaucoup d'enfants, mais de maîtrise de la contraception. Justement, vous, Eric Dorit Matin, vous prévoyez la pilule pour hommes dès l'année prochaine, dès 2007.
C'est pas prévoir. Là, je vais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur Werber. J'ai listé les 95 sujets du siècle. Qu'est-ce qui peut bien arriver? Qu'est-ce qui est plausible? Qu'est-ce qui est possible? C'est pas de la voyance, c'est pas de dire à partir de ce soir, en 2006, on va vivre jusqu'à 150 ans, comme le disait le professeur Beaulieu, enfin, comme le dit, il ne le dit pas d'ailleurs, mais ce serait éventuellement possible grâce à certaines, hormones comme la DHEA. Maintenant, si vous voulez, si on liste tous ces sujets qui font peur, l'automobile, l'espace, la vie sur Terre à plusieurs, la disparition des animaux, on liste tout ce qui nous fait peur et comment on peut améliorer tout ça. J'apporte pas des solutions, simplement je me suis plongé dans des bouquins, j'ai rencontré des scientifiques, on a discuté et après on s'est dit cette voie serait bien, cette voie serait bonne pour la planète. Exemple, les animaux, il faut pas oublier qu'il y a eu au congrès de Séville, je crois, la reconnaissance des biosphères et que les biosphères, si elles suivent leur cours, on pourra un jour ou l'autre protéger vraiment les animaux. En Afrique, il y aura des grands parcs où on préservera les espèces. J'ai lu qu'il y avait plus que 5000 tigres, 5000 espèces, c'est quand même vraiment incroyable. Donc effectivement, aujourd'hui, la question c'est attention au danger. De Clauset le disait, souvenez-vous, on consomme trop, toujours plus. Peut-être n'arrêtons pas la machine parce que personne ne l'acceptera et je pense pas que les Chinois aujourd'hui accepteraient de se mettre le frein à main. En revanche, oui, On l'a vu avec certains sommets dans le monde, respectons la nature, prenons de bonnes décisions, essayons d'être plus raisonnables, parce que là, effectivement, parfois, l'homme est inconstant et pas suffisamment raisonnable, et le danger vient de là, beaucoup plus de l'homme que de la technique. Moi, je dis, la technique, il faut avoir confiance en elle, la santé va s'améliorer. Écoutez, on vit quand même mieux aujourd'hui qu'en 1906, j'imagine, hein, si vous replongez 100 ans en arrière. Donc, avec les informations qu'on a aujourd'hui, imaginons ce siècle, soyons positifs, faut pas non plus toujours voir le siècle avec des yeux négatifs faisant peur aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, oui, l'idéal. Si vous arrêtez pas de dire sans arrêt tout va mal, il n'y a plus rien à entreprendre, il faut revenir, pourquoi pas, à l'âge de pierre ou avec la bougie, etc. Non, mais en revanche, dans l'énergie, vous allez avoir peut-être un jour ce projet formidable de Cadarache, ITER, s'il fonctionne. Bien sûr qu'actuellement, on dit peut pas fonctionner. On a quand même 50 ans devant nous pour bosser. La fin du pétrole, ça va pas disparaître demain, mais on a quand même devant nous un certain nombre d'années avec l'hydrogène, peut-être, qui sera une solution. Voilà. La santé, le cancer, n'oubliez pas qu'on a annoncé il y a peu de temps un vaccin pour le cancer de l'utérus, c'est quand même une grande victoire. Jamais on aurait pu imaginer ça il y a encore 10 ans. Le sida, les solutions vont arriver. Donc voilà, soyons positifs. Là, je pense que la santé, le professeur Axel Kahn pourra nous en dire plus. Il y a des choses positives dans ce siècle. Le quotidien Le Soir disait tout à l'heure, le 21e siècle commence maintenant.
Hein, vous envisagez même, vous, une grève du cerveau en 2082.
Oui, mais bon, attendez, c'est pas envisagé.
Vous le faites de façon... Tout à fait, journalistique.
Quand vous rencontrez des scientifiques et des savants, vous discutez avec eux, est-ce que ce sera possible ou non? Ce livre appelle à réfléchir. Le vrai titre, le bon titre pour ce bouquin, ça aurait été 95 sujets de discussion pour un dîner en ville. Parce qu'à chaque fois que vous abordez ce sujet, par exemple, la disquette cérébrale, un jour on vous mettra une clé USB dans la tête, bon bah, est-ce que c'est pareil pour tout ce qui est clonage thérapeutique? Il y a quand même des prémices aujourd'hui, on commence à en voir. Bon, est-ce qu'on fera un jour un enfant cloné? Axel Kahn dit que oui, c'est pas impossible. Enfin, là, je vous laisserai répondre.
Jamais l'histoire n'a accéléré à cette vitesse. C'est-à-dire que nous trouvons la première génération déjà à connaître toute la planète. Ce qu'il faut voir, que vous prenez 1900, il y avait encore des zones inconnues. Maintenant, on connaît toute la planète. On a enfin la possibilité de connaître tout notre passé, et même on a la possibilité d'envisager le futur, ce que n'avaient pas nos ancêtres. Moi, j'ai fait un site qui s'appelle l'arbre des possibles, c'est sur bernardverber.com. Et dans ce site, c'était cette problématique qui est... Quelle va être la vision des gens de 2006 sur le futur? Déjà, il faut répertorier toutes les idées de notre génération pour essayer de bâtir le monde de l'an 3006, le monde du futur. Il faut déjà qu'il soit imaginé maintenant, parce que nous sommes dans le monde qu'ont imaginé les gens de 1900, les gens de l'an 1000. C'est des projections, nous sommes dans des projections d'imaginaire. Donc il faut actuellement stocker le maximum d'idées, et a fortiori de bonnes idées, pour qu'on puisse les mettre en place. Si personne n'a ces idées, elles ne pourront jamais exister.
Éric Soyer, alors vous prévoyez le futur proche, finalement, hein. Vous partez de choses très concrètes.
Alors, on ne fait pas de prévision. Ce qu'on dit, le titre du livre que j'ai coécrit, je vais quand même citer mes co-auteurs.
Fabriquer le futur.
Pierre Musso et Laurent Pontou. Donc, ce qu'on dit, c'est que le futur peut se fabriquer. C'est pas quelque chose qui vous tombe de façon inexorable comme ça sur la tête. Et d'une certaine manière, le futur se fabrique. Se fabrique aujourd'hui, tous les jours. Et donc, le propos de ce livre, ça a été en fait de faire une vaste enquête qui a abouti à ce livre. Et on a souhaité aller rencontrer donc des gens, des innovateurs de tout type, à la fois des entreprises, des grands groupes, des PME, des inventeurs, des consultants, des designers, pour savoir comment se fabriquer aujourd'hui les produits et services de demain. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, et c'est en ça que je rejoins certains propos notamment de Monsieur Verber, c'est que on constate que le consommateur a énormément changé ces derniers temps. Et la technologie pour la technologie n'est plus quelque chose qui l'attire. On passe, en d'autres termes, du high-tech au high-touch, hein, si on peut dire. Et le consommateur est devenu emprunt, effectivement, attiré par des valeurs un petit peu nouvelles. Le consommateur change. Les valeurs dites du développement durable sont aujourd'hui bien ancrées. Enfin, en tout cas, commencent à pénétrer les esprits. Et les produits et services du futur ne sont pas uniquement des produits technologiques.
On peut... D'où les entreprises qui se veulent maintenant responsables et citoyennes.
Tout à fait. Et on peut innover dans des tas de domaines, dans des domaines sociétaux, dans le domaine des services, sans forcément faire appel à la technologie. Hein, donc c'est un petit peu ce qu'on veut dire quand on parle de fabriquer le futur. Et je rejoins tout à fait également vos propos quand vous dites qu'il faut faire appel à l'imaginaire. Hein, c'est le sous-titre de
Alors, n'oublions pas nos auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de questions. Pascal nous appelle de Marseille. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Ben, je voulais faire une petite remarque. L'un des enjeux, enfin, il me semble que l'un des enjeux principaux du siècle qui s'annonce, ça va être l'eau. Parce que entre les dérèglements climatiques et les incidences que cela va induire, et l'état écologique de cette planète, en Chine, il y aurait beaucoup à dire, mais même aussi en France, où la quasi-totalité des nappes phréatiques est contaminée, quoi. Je veux dire, l'eau va devenir un bien extrêmement précieux, et d'autant plus qu'on ne peut pas s'en passer, contrairement au pétrole. Et je crois que ça va mettre une ambiance assez explosive dans des zones comme le Moyen-Orient, où l'eau est d'ores et déjà un problème, et ça va peut-être mettre certains autres pays sous les feux de la rampe. Je pense à l'Argentine, qui dispose de réserves en eau douce extraordinaires et très conséquentes, quoi. Donc je pense qu'au niveau de l'eau, il va y avoir des jeux des rapports de force, des enjeux géopolitiques assez importants, quoi. Enfin, il me semble.
Qui veut répondre sur l'eau?
Oui, je ne vais pas répondre uniquement sur l'eau, mais il y a un rapport entre l'eau et la santé. Et pour revenir un tout petit peu à l'intervention extrêmement pessimiste de l'auditeur précédent, je dirais, il a raison, mais il faut savoir raison garder. En effet, si on l'écoutait, on devrait voir une population déclinante dans le monde. On devrait voir les enfants mourir comme des mouches. On devrait voir la longévité diminuer. Il y a tant de toxiques, il y a tant de cancers partout. La réalité aujourd'hui n'est pas celle-là. Simplement, elle n'est pas celle-là. La réalité aujourd'hui est que dans presque tous les pays, malheureusement beaucoup moins dans certains que dans d'autres, mais dans presque tous les pays, la longévité continue d'augmenter, et quand on regarde l'évolution de la longévité, c'est-à-dire l'espoir de vie à la naissance, on n'a pas encore constaté de cassure de la courbe. C'est-à-dire que si on continue comme cela, on peut dire, sans risque de se tromper, que l'espoir de vie moyen dans 10 ou 20 ans d'un petit garçon, d'une petite fille, ça sera autour de 100 ans pour une petite fille, et ça sera autour de 90 ans pour un petit garçon dans 20 ou 25 ans. Il n'empêche que l'auditeur avait raison et que le précédent avait également raison. Aujourd'hui,
le fait qu'on en ait conscience fait aussi qu'on va effectivement faire un certain nombre d'actions pour lutter contre
ce phénomène. Il faut pas être naïf. Oui. Il faut pas, si vous voulez, se contenter de déclarations de principe un peu lénifiantes. Hein. La situation est difficile, c'est-à-dire que la technique a des capacités et a eu des réalisations fantastiques, et l'augmentation de la longévité n'est pas uniquement liée à la technique, mais c'est lié à la prospérité, à l'hygiène, à tout plein de choses. Je ne crois pas que la technique en elle-même ait la capacité de nous permettre de relever tous les défis de l'eau, les défis des polluants, les défis de la pollution, de l'augmentation. Je crois qu'en réalité, les techniques ne sont que des outils au service d'une volonté humaine. Mmh. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura la possibilité pour une volonté humaine de se manifester? Est-ce que les hommes et les femmes auront la possibilité de vouloir quelque chose, en étant persuadé que l'avenir ne dépend pas uniquement du marché, ne dépend pas uniquement de la technique, ne dépend pas uniquement de forces qui les dépassent, que l'avenir, il dépend d'eux-mêmes. Et si les hommes et les femmes veulent reprendre leur avenir, et pour simplement le forger, se servir de la technique, alors la technique peut les y aider. Mais il ne faut pas considérer que la technique est le moyen d'atteindre un paradis certain. Naturellement, la technique, ça peut être les armes.
La philosophie du progrès au début du XXe siècle.
C'est-à-dire, la raison pour laquelle il est bon de condamner aujourd'hui la naïveté de la philosophie du progrès du XIXe siècle, c'est que cette philosophie considérait que pratiquement l'évolution de la raison rendait nécessaire et certaine l'acquisition d'une amélioration du bonheur. Or, ça, c'est pas vrai. Si on veut que le bonheur augmente, je ne sais pas si c'est certainement possible, il y a une condition sine qua non, il faut le vouloir. Notre société aujourd'hui, un problème majeur, notre société, quand vous demandez souvent, pas à des consultants de votre qualité, monsieur, mais à certains consultants, ils vous disent il faut que le commerce marche bien, il faut que les marchés fonctionnent, il faut que la technique, etc. Tout ça sont des moyens. Et vous leur demandez, oui, mais ces moyens, au service de quoi vous voulez les mettre? Notre société est incapable de se fixer des buts. Si nous rétablissons l'ordre des choses, c'est-à-dire une société qui se fixe des buts, et en effet la durabilité, en effet que les gens vivent ici et demain, ici et ailleurs, et que l'on se donne le moyen d'utiliser notre connaissance, la technique, la science, pour y parvenir, C'est pas impossible. C'est pas impossible. Encore faut-il le vouloir.
Et j'ajouterais, si vous le permettez, que la technique permettra d'épurer l'eau, par exemple, de mieux contrôler le gaspillage. Peut-être un
on
jour.
On vient déjà de trouver une paille qui est pure, l'eau.
Exactement.
Qui est un véritable espoir pour les pays du tiers-monde.
On travaille aujourd'hui sur les eaux du Gange pour les purifier. Ce qui fait que dans 10
mais
ou 15 ans.
Mais il faudrait utiliser moins d'eau, c'est vrai
mais
aussi.
Bien entendu. Et la technologie.
Imaginons que demain, parce qu'il faut tout de même dire qu'il avait raison, l'auditeur, tout à l'heure. Imaginons que demain, la totalité du monde vive à l'européenne ou bien à l'américaine. Bien c'est-à-dire utilise 5000 mètres cubes. Les Américains, c'est ce qu'ils font. 5000 mètres cubes par an d'eau renouvelable, par an et par personne. Il n'y a pas de quoi. Simplement, il n'y a pas de quoi. C'est impossible. Et si tout le monde veut vivre avec ce modèle-là, cela engendrera des tensions considérables, des guerres, cela a commencé. Donc, ça, c'est vrai que de l'imaginer. Est-ce que l'on peut faire autre chose? Est-ce que l'on peut vivre bien avec moins d'eau? Oui, on le peut. Il faut le vouloir. Oui, il ne faut pas simplement dire la technique.
Est-ce qu'on peut désaliniser l'eau de mer? Est-ce qu'on peut désaliniser l'eau de mer, par exemple?
Ou est-ce qu'on peut transporter des icebergs dans les pays du Golfe? Ça, il y a un chapitre là-dessus, d'ailleurs, justement, ce qui ne serait pas impossible.
Éric Seuillet.
On cite dans notre livre l'ancien directeur de la prospective de l'Institut de la prospective de Copenhague, qui a écrit un livre qui s'appelle La société du rêve. Alors donc, et tout ce qu'on a pu regarder, tout ce qu'on a pu étudier à l'occasion de cette enquête, montre que le consommateur a plein de rêves dans sa tête et qui sont de véritables moteurs pour l'innovation. Hein, donc si on prend l'imaginaire, effectivement, en allant voir, c'est tout à fait inutile d'interroger le consommateur dans la rue. Hein, il ne saura pas vous dire ce dont il a besoin pour demain. Par contre, il pourra exprimer des désirs. Et si on arrive à croiser ses désirs avec des avancées technologiques, hein, parce qu'il faut les deux, il faut être à la fois cerveau gauche et cerveau droit, mais en réunissant les deux, c'est là... En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater, que les sociétés les plus en pointe en matière d'innovation peuvent nous proposer des choses tout à fait pertinentes et intéressantes.
Pierre nous appelle de Martigues. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour la richesse de vos émissions.
Merci beaucoup.
Non, moi, si vous voulez, je vais être plus terre à terre, si on veut dire. J'ai appris qu'on a lancé le premier satellite Galileo. Et je trouve ce projet formidable parce que c'est un outil qui a été créé dans l'Union, qui a été créé avec l'Europe et également des pays d'autres pays comme l'Asie, des pays d'Asie, les Indiens, et, qui a été lancé par une fusée chinoise, je crois.
Russe.
Et donc, qui est un peu un symbole de symbiose de l'Union si on pouvait être à l'image de ce projet pour un rassemblement des peuples, et réduire le terrorisme et réduire la violence un petit peu de la même manière par l'Union, par rapport à la dominante américaine qui cherche à établir des règles alors que l'Europe a été bâtie sur des valeurs.
Bien, oui, d'accord, Pierre. Ben écoutez, je crois que c'est la période des vœux. Alors effectivement, on peut partir de Galileo pour faire des vœux sur l'Union européenne, qui est pas très très bien en point en ce moment, me semble-t-il. Mais enfin bon, merci en tout cas de votre réflexion, Pierre. Et effectivement, c'est vrai que l'Europe de l'espace, au moins, elle se construit. Mais l'espace, pourquoi faire, Éric Dorit-Maten, vous avez dans votre livre, il y a un certain nombre de pistes sur l'espace. Et, on trouve de la vie sur Mars, etc.
Absolument, on découvre aussi une planète liquide.
Oui.
Francis Rocard m'a aidé d'ailleurs pour ce chapitre. Hein, une planète, il y a Monsieur Braque, André Braque également, qui m'a apporté des informations. Il y a les virus spatiaux qui font peur. On pourrait en retrouver un jour, avec des traces d'ailleurs sur certaines planètes. Donc, on a aussi les colons de l'espace. Peut-être un jour des robots qui partiront dans l'espace, reprenant l'idée de Christophe Colomb sur les mers, mais avec un robot à bord d'une navette sans fin qui irait explorer. Est-ce qu'elle reviendrait au point zéro? On ne sait pas. et si l'univers était rond. Bon, voyez, enfin, il y a un certain nombre de, et je me suis fondé sur des travaux vraiment de la NASA ou des travaux vraiment réels. C'est-à-dire, dans ce livre, rien n'est inventé, tout est plausible, tout est possible. Ça fait rêver, bien entendu, mais c'est pas de la science-fiction en même temps. Hein. Alors, pour répondre à la question, je crois là sur l'espace, il y a aussi quelque chose d'important, c'est les radars du futur, les radars des mers. Là, on est au début du lancement de satellites, mais ils vont devenir de plus en plus perfectionnés. Imaginons un jour, par exemple, l'Internet que l'on aura directement dans les yeux ou avec des lunettes. N'oublions pas qu'il y a Optical Valley qui se trouve à Saclay. Là, il faut rendre hommage à la technologie française qui évolue très vite. Hein. Et peut-être que très vite, on aura la possibilité de voir Internet ou des images sur des lentilles ou des lunettes. Ça serait quand même bien pratique. Il y a aussi les radars des mers qui vont un jour scruter les océans, important pour mesurer la fonte des glaces, par exemple.
Et aussi le fait qu'on puisse maîtriser l'énergie solaire.
Complètement, aussi, tout à fait. Ah. Oui, ces fameux radars géants, les Japonais y songent, avec des panneaux solaires qui retransmettraient l'énergie sur Terre. Bon, c'est pas fou, c'est possible, ça demande beaucoup d'argent. C'est le besoin aussi qui crée l'innovation. Faut pas l'oublier, hein. Faut pas oublier que si on a tant innové au 19e et au 20e siècle, c'est parce qu'il y avait un véritable besoin. Aujourd'hui, on commence à se dire que ça fait beaucoup. Donc, freinons peut-être un peu. Est-ce que ça va pas être le coup d'arrêt à l'innovation? Ça, c'est une question qu'il faut avoir en tête.
Je voudrais juste faire un petit commentaire sur l'espace, parce que il se trouve qu'on a interrogé Pierre Brisson, qui est le responsable des transferts technologiques de l'Agence spatiale européenne, et qui nous a dit des choses tout à fait intéressantes en matière d'imaginaire. C'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne, par exemple, a confronté des auteurs de science-fiction, hein, des dessinateurs, avec ses propres ingénieurs. Donc, pour en faire sortir des pistes, et ils ont trouvé des pistes tout à fait intéressantes, notamment pour les voyages dans l'espace vers la destination de Mars, hein, puisqu'on va partir, il paraît que le voyage va durer à peu près 9 mois, hein, et donc les solutions classiques ne sont pas forcément les plus pertinentes. Donc, en nourrissant, et c'est là où l'imaginaire est tout à fait intéressant en matière d'innovation, en confrontant cet imaginaire des auteurs de science-fiction, hein, à celui des ingénieurs, donc ils ont trouvé des solutions intéressantes.
Bernard Werber ?
Oui, c'est en effet, l'espace est vraiment la clé peut-être du problème. Je crois qu'il faut se projeter non plus à quelques centaines, voire quelques milliers d'années, il faut imaginer l'humanité dans 100 000 ans, voire dans 1 million d'années. Je pense que nous serons forcément essaimés. Parce que tel quel, déjà, on voit bien que la Terre, même avec les meilleures bonnes volontés, on va quand même l'abîmer. Et il va falloir faire ce qu'ont fait tous nos ancêtres, c'est-à-dire que ils allaient toujours vers des territoires inconnus et ils essayaient de découvrir de nouvelles zones pour étendre l'espèce humaine. Il y a un film que j'aimerais citer encore, que tout le monde connaît, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, mais qui raconte ça, qui raconte comment va apparaître bientôt un nouvel être humain qui va être adapté à l'espace et qui va avoir une nouvelle conscience qui va être elle aussi adaptée à ce plus grand espace. Là, nous pensons terrien. Peut-être qu'il faudra se mettre un jour à penser système solaire, ou encore mieux, penser galaxie.
Il y a une question par Internet pour vous, Bernard Werber. C'est Clarisse qui dit « Je sors d'une séance de Constance Gardner. En matière de futur, l'action des grands groupes pharmaceutiques, en l'occurrence, n'est-elle pas un frein à l'harmonie dont parle Bernard Werber ?»
Oh non, mais il y a plein de freins, mais on va pas les prendre en compte.
Mais enfin, oui, c'est sûr non, qu'on peut en trouver.
Oui, je vais juste continuer sur ce truc de l'espace. C'est que on parlait tout à l'heure de Mars. On a parlé aussi des petits satellites que nous avons dans le système solaire. Mais je crois que l'avenir n'est pas un système solaire. Il faudra arriver à un moment à construire un vaisseau qui quitte le système solaire pour arriver sur une autre étoile. Et ce genre de vaisseau, ça ne seront plus des vaisseaux à combustible, à essence, même à nucléaire. Ça sera des vaisseaux, je pense, à propulsion solaire. C'est-à-dire propulsés par les vents de photons produits par les étoiles. Et il y a cette idée que je trouve très poétique et complètement science-fiction, qui est d'un immense vaisseau contenant non plus 3 ou 4 astronautes, mais peut-être une centaine de milliers de personnes vivant dans une sorte de village autonome, complet, et ce village se déplaçant dans l'espace pour rejoindre une autre étoile et recréer ailleurs une colonie terrienne et redémarrer à zéro. Ça, c'est un espoir. C'est un rêve, voilà.
Ouais, c'est une partie de l'imaginaire, alors, à ce moment-là. Ouais. Axel Kahn.
Une remarque, je ne sais pas si les essais de prévision millénaristes ou bien centenaires, Jules Verne il y a un peu plus de 100 ans, et puis aujourd'hui Éric de Ritmaten, vous voyez, je ne sais pas si ça a une vraie valeur de prévision.
Sans doute modérément.
En revanche, ça a une énorme valeur pour dire ce qu'est le psychisme collectif d'une société à un moment donné. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Ce qui est très intéressant à lire le livre d'Éric Maten, c'est effectivement, je ne sais pas ce qui se produira ou pas, et je suis certainement moins certain que lui qu'on arrivera là où il nous propose d'aller. Mais peu importe, on peut le dire, et il n'est pas déraisonnable, il n'est pas fou de le dire. Ça veut dire qu'on peut à un moment donné le rêver. Et dans 50 ou 60 ans, si on se demande quels sont les éléments psychiques à partir desquels les citoyens ont bâti ce que l'on connaît, ont fait l'histoire, il sera intéressant alors de lire ces prévisions-là. Et ça, c'est quelque chose de qui l'emporte pour moi sur la valeur prévisionnelle d'un tel livre.
Écoutez, vous me rendez hommage, c'est merveilleux, merci. C'est trop gentil.
Alors on va prendre un
auditeur. Mais je suis pas naturellement gentil, vous savez.
C'est le cas. Attends, on va aussi donner la parole aux auditeurs. Ilan, à Toulouse, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre émission et la qualité qui en ressort.
Merci.
C'est fantastique et vive le service public. Voilà, donc je me permettais de vous contacter parce qu'en fait, j'avais une question à poser sur la notion du travail et puis son avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le pouvoir économique délocalise la main-d'œuvre aux endroits où elle est la moins chère possible pour envisager une rentabilité la plus élevée. Et en fait, on envisage aussi à moyen terme la robotisation du travail. Donc, est-ce qu'il y aurait à terme une disparition du travail humain ? Et à ce moment-là, vers quelle société pourrait-on s'orienter dans la mesure où on sait très bien qu'actuellement, le rapport entre dominant et dominé est établi sur à la fois le rapport à l'argent et puis le rapport au temps aussi. Mmh. On sait très bien que moins on a de temps et moins on peut réfléchir. Voilà, donc ce sont des questions que je me posais et voilà, je voulais les poser sur la table ce soir.
Oui, merci Ilan.
Bonne soirée, bonne année.
Merci beaucoup, à vous aussi, tous nos voeux. On en profite pour présenter tous nos voeux à nos auditeurs de France Inter. Alors, qui veut répondre à cette question ? Le travail humain remplacé par le travail robotisé, c'est ce qui arrive de plus en plus, non ?
Oui, enfin, on a un petit peu regardé le secteur de la robotique et on voit effectivement qu'il y a des applications très nombreuses en matière de robotique, et c'est pas forcément une mauvaise chose que les robots remplacent les humains, hein, dans certains cas. Il y a des cas où on doit aller dans des sites dangereux, il y a des problèmes de sécurité,
oui. Il vaut mieux que ce soit des robots ou des
et
humains.
Puis si après tout un robot peut faire le travail d'un humain et que l'humain puisse aller au cinéma et puis voir les pièces de théâtre de Monsieur Werber, c'est pas forcément plus mal.
Il y a 30 ans à la retraite.
Ou 30 ans à la retraite.
Vous dites simplement, oui. Excusez-moi, oui. Ce que vous dites est très vrai, parce que en soi, il y a une telle augmentation de la productivité du travail, grâce notamment à la robotisation, que s'il n'y avait que les chiffres, le fait que la longévité amène les gens éventuellement à avoir un espoir de 15 ans ou 20 ans à la retraite, normalement, la productivité du travail d'une minorité de gens au travail devrait y suffire. Donc il y a d'autres règles de la compétition économique qui créent problème. Excusez-moi pour cette digression.
On va poursuivre le sujet avec Annie à Paris.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est une émission excellente.
Merci beaucoup.
Et moi, je vais poser une question, je vais essayer de la formuler, parce que c'est par rapport à la longévité.
Oui.
Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de vieilles personnes, et des gens en bonne santé, hein, qui n'ont pas de problème de dépendance, et qui souvent disaient, mais la vie est longue, c'est trop long. Et je voudrais faire cette réflexion. C'est que c'est bien de vivre vieux, hein. Je suis pas contre le principe, mais les vieux étant coupés des jeunes générations, il n'y a pas ce souffle de fraîcheur qui leur donne envie de continuer.
Oui.
Et donc c'est des gens qui se retrouvent, bon, soit dans des activités, qui voyagent, mais toujours entre vieux. Et ça leur donne pas la pêche de se sentir bien. Et
oui, alors effectivement,
pourquoi vivre aussi longtemps, pour vivre des vies aussi stupides, quoi.
C'est vrai, Annie, vous avez raison. Il y a pas mal de questions d'auditeurs. Est-ce que vous êtes sûr que l'allongement de la vie est le souverain bien, nous dit Roger, par exemple, dans le Var. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Axel Kahn, justement? Bah oui.
D'abord, je ne vais pas me prononcer pour les gens. C'est-à-dire, personnellement, je suis d'accord avec l'auditrice. C'est-à-dire que je considère que toute pièce qui se prolonge commence à devenir un peu ennuyeuse, y compris quand cette pièce est la pièce de la vie. Et donc, pour ce qui est de mon cas personnel, je ne revendique pas de vivre
107 ans.
Oui, c'est ça. 107 ans. Cela étant dit, il n'est pas illégitime que quelqu'un d'autre que moi le revendique. Et d'autre part, le problème n'est pas tellement dans le caractère illégitime d'une revendication d'une augmentation de la longévité, c'est dans le caractère schizophrène de notre société, qui à la fois, grâce à la technique, à la science, à l'hygiène, augmente l'espoir de vie à la naissance et garde le même standard, il faut être beau, jeune, séduisant et productif. Et qui, par conséquent, laisse peu de place à ceux qui ont cessé d'être beaux, jeunes, séduisants et productifs, et qui crée cette cassure. Une société qui, à la fois, crée énormément de gens qui sont remarquables, mais qui ont cessé d'être beaux, jeunes, productifs et séduisants, et qui ne leur laisse aucune place, ne sera pas une société dans laquelle on vivra heureux. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux en retissant le lien de la continuité du petit enfant au papy? Naturellement que oui, mais là encore, il faut le vouloir et le faire.
J'ajouterais juste, Axel K, si on peut vivre, on va peut-être pas vivre jusqu'à 150 ans, ou en tout cas c'est peut-être pas forcément souhaitable, mais au moins si on peut vivre jusqu'à 80 ans en très bonne santé, 90 ans même, c'est ça qui est formidable.
On y travaille.
Ouais, mais la surpopulation aussi, hein, parce que les gens qui ne meurent pas, ils restent sur Terre, c'est évident.
Mais il faut aussi
penser. Oui, mais si vous proposez comme frein à la surpopulation de tuer les vieillards, je ne vous suivrai pas.
Et puis, souvenez-vous du film Cocoon, ça fait rêver quand même.
Bernard Werber, très vite, parce qu'on a encore une question et on arrive.
Je vais juste faire une référence, il y a le soleil vert qui montre la solution extrême, c'est-à-dire surpopulation et destruction des vieux. Le vrai enjeu, c'est, là je reprends une phrase plus ancienne, celle de Rabelais, c'est « si on s'en conscience n'est que ruine de l'âme ». On est allé au bout de tous les systèmes, de ce que nous a amené l'intelligence. Et on s'aperçoit que l'intelligence n'est pas la solution. La solution, c'est le stade supérieur, c'est la conscience. On parlait tout à l'heure des robots, peut-être que les robots accéderont à la conscience. Peut-être que certains humains accéderont eux aussi à un niveau de conscience que nous n'imaginons même pas. Mais la grande aventure que nous avons actuellement, ce n'est même pas l'espace, ce n'est pas vivre vieux, ce n'est pas avoir des robots, c'est seulement une révolution dans l'esprit qui consiste à nous brancher sur notre planète, à nous brancher sur les autres êtres humains et enfin arriver à communiquer réellement.
Dernière question.
Oui,
bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonjour France Inter, bonjour tout le monde. Alors, je vais faire un raccourci parce qu'on arrive.
Vous nous appelez des
Pyrénées Orientales.
Y
aurait-il pas une contradiction éthique entre les anti-OGM, organismes génétiquement modifiés, et ce que l'émission sur le Téléthon qui consiste à accumuler des fonds pour chercher dans le génome humain à le transformer à travers les molécules, les macromolécules chimiques.
Voilà, y aurait-il pas une question pour un généticien, ça, c'est vrai. Oui.
Non. Écoutez, tout d'abord, il faut que les opinions s'expriment. Personnellement, je fais partie de ceux qui n'ont pas peur du tout de l'amélioration des variétés par transfert de gènes. Cela étant dit, les citoyens peuvent protester parce que ça leur répugne pour telle ou telle raison. Il faut que l'information et le débat soient extrêmement larges. Et quand on parle des OGM, souvent on parle uniquement des plantes transgéniques. Et on ne fait pas du tout allusion aux gens qui pourront être des malades génétiquement modifiés, c'est-à-dire génétiquement corrigés, par thérapie génique, lorsque la thérapie génique sera bien maîtrisée. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il y a effectivement un outil génétique qui est tout à fait important. On peut l'utiliser pour améliorer la qualité des plantes. On peut l'utiliser, on l'espère, pour améliorer la qualité de la médecine. Lorsqu'il y a des protestations, des questions, il faut que le débat soit aussi large que possible et être très précis sur ce dont on parle. Autrement, la confusion est tout à fait un obstacle à un débat démocratique.
Alors, une conclusion en 30 secondes, Bernard Werber.
Une conclusion de l'avenir de l'humanité?
Oui.
D'abord, je crois que n'importe quelle personne à qui nous entend aujourd'hui dans cette émission peut s'autoriser à avoir sa propre opinion. Il faut pas justement qu'il y ait des personnes qui accaparent la vision de futur. Si j'ai créé le site là sur bernardwerber.com d'Arbre des Possibles, c'est pour que les gens s'expriment enfin. C'est-à-dire que nous autorisions tous à avoir notre futur personnel. Pas attendre qu'il y ait un type à la télévision qui vous dise, voilà, il faut que vous ayez peur de ça et il faut que vous croyez dans ça. Pour chacun, l'avenir est différent. Il faut juste s'autoriser à imaginer et à rêver.
Merci beaucoup. Bah voilà, l'imaginaire, donc, à la une du futur et du 21e siècle. Merci à tous. Il y a encore évidemment beaucoup de questions d'auditeurs. On ne peut pas les épuiser en un seul débat. On aura évidemment l'occasion, au cours de ce siècle, de faire d'autres téléphones sonnes. Merci à tous. Bonsoir.
C'était le Téléphone Sonne, une émission dirigée par Denis Astagnaud. Vous écoutez France Inter, il est 20h. Les informations, Bruno Duvic.